RFI, grand reportage. Marie-Pierre Olfan.
Bonjour à tous. Grand reportage vous emmène aujourd'hui marcher sur les chemins de Compostelle dans le midi de la France. Il y a 20 ans, l'UNESCO inscrivait les chemins de Saint-Jacques de Compostelle sur la liste du patrimoine mondial. Un patrimoine culturel et spirituel devenu universel. Pour célébrer cet anniversaire, plus de 300 manifestations en France, conférences, expositions, spectacles sont organisées. Nous vous proposons de partir sur la voie d'Arles qui est un des quatre grands chemins empruntés au XIIe siècle par les pèlerins pour aller vénérer les reliques de l'apôtre Saint-Jacques à l'ouest de l'Espagne. En chemin avec les guides et conservateurs, maires ou amis des saints, nous allons découvrir des édifices majeurs ou objets précieux récemment restaurés. Des merveilles de l'art roman, mais aussi tout un imaginaire lié au pèlerinage. Des histoires de tombeaux, de guérisons miraculeuses, d'enfer et de paradis, sans oublier la coquille, le gris-gris des pèlerins. Restauration sur la voie d'Arles, un des chemins de Compostelle, c'est un grand reportage d'Antoinette Delafin.
Nous sommes à Arles, à l'entrée du cimetière des Aliscandes, où partaient les pèlerins en direction de Saint-Jacques de Compostelle, où se trouve le sanctuaire de l'apôtre du Christ. Avec nous, Sébastien Pénary, chargé de mission à la Compostelle. Sébastien qui nous explique quels sont les biens classés par l'UNESCO sur l'ensemble des chemins qui traversent la France, c'est-à-dire 4 fois 800 km en direction des Pyrénées et de l'Espagne. Sébastien Pénary.
On a sélectionné une collection de monuments, de 71 monuments et de 7 portions d'un chemin qui nous raconte le pèlerinage médiéval. Constitué d'éléments matériels bâtis, des monuments, des églises, des chapelles, des ponts, des anciens hôpitaux, des portions de routes. C'est donc un imaginaire immatériel. Et les dévotions au saint, la dévotion à l'apôtre Saint-Jacques lui-même, c'est tout cela qui a été inscrit et que nous avons à charge d'animer, de valoriser, de transmettre. Et nous avons choisi de vous présenter quelques-uns des monuments d'une des quatre voies symboliques françaises, le chemin d'Arles, la Via Tolosana. Arles est un grand centre de la chrétienté médiévale et c'est un point de départ de l'une des quatre voies symboliques françaises. Ici, dans le midi de la France, on est évidemment au bord de la Méditerranée. Par conséquent, on est au Moyen-Âge, au centre du monde connu. Arles, donc, est une plateforme, une plaque tournante, un carrefour entre Rome d'un côté et Saint-Jacques de Compostelle de l'autre, et carrefour aussi entre l'Europe du Nord et la Méditerranée, puisque Arles a, depuis l'Antiquité, été un port, un lieu de trafic commercial et donc forcément d'échanges culturels et d'échanges spirituels.
Cécile Bénistan est guide conférencière à Arles. Elle nous rejoint au cimetière des Aliscans, où des tombes alignées sous les cyprès accueillent les visiteurs. La nécropole, située à l'extérieur des remparts de la ville, s'étend le long de la voie romaine qui se trouve presque à égale distance entre Rome, 1200 km, et Saint-Jacques, plus de 1500. Alors, à quel moment le pèlerinage s'est-il implanté à Arles, Cécile Bénistan?
Depuis effectivement la découverte donc des reliques donc de Saint-Jacques, hein, que l'on date là approximativement du 9e siècle, le pèlerinage va se mettre très très vite donc en place. Effectivement, les pèlerins donc vont partir justement d'Arles en direction donc des reliques donc de Saint-Jacques, hein, mais ils ne vont pas oublier donc au passage de vénérer justement les saints qui se trouvent sur le chemin donc de Saint-Jacques de Compostelle.
Nous sommes maintenant à l'intérieur de la ville, dans la cathédrale Saint-Trophime, célèbre pour son portail en triptyque et son clocher roman provençal. Au milieu de la nef centrale, Cécile Bénistan tient à lire un passage du Codex Calixtinus. Ce texte, écrit au XIIe siècle et qui est inclus dans le guide du pèlerin, indique précisément les étapes à respecter pour ceux qui se rendent à Saint-Jacques. Des étapes qui se font autour des reliques, nous dit-elle. Alors, quels sont donc les saints que le pèlerin se doit de visiter à Arles avant de commencer le pèlerinage?
Le livre saint donc du Codex dit une chose. Ceux qui vont à Saint-Jacques de Compostelle par la route de Saint-Gilles doivent d'abord rendre visite à Arles, au corps du bienheureux Trophime confesseur. Il faut visiter aussi le corps du bienheureux Césaire, évêque et martyr, et dans le cimetière de la même ville, on doit chercher les reliques de l'évêque Saint-Honorat. Et c'est dans sa vénérable et magnifique basilique que repose le corps du très saint martyr Géneste.
Alors, qui était Geneste ? Geneste, c'était un jeune citoyen romain qui a vécu au IIIe siècle et qui avait pour mission d'enregistrer les condamnations à mort des chrétiens. Jusqu'au jour où il a clairement déclaré qu'il était lui-même chrétien. Dès lors, il a dû traverser le Rhône à la nage, poursuivi par les troupes romaines qui l'ont décapité.
À partir du moment où Geneste, finalement, est mort donc en martyr, c'est-à-dire au nom de la foi religieuse et puis de mort violente, son corps va être ramené, justement, dans cette nécropole donc des Aliscans.
Nous traversons maintenant la galerie la plus ancienne du cloître, qui date du XIIe siècle. On y croise des statues, celles de Saint-Jacques, de Saint-Trophime, à qui les pèlerins doivent confier les raisons de leur voyage, et celles d'Emmaüs, qui portent un bonnet orné de la coquille, symbole du pèlerinage et porte-bonheur. On se dirige vers la salle des reliques, où se tient une exposition sur les ornements de Saint-Césaire, cet évêque du VIe siècle, dont les vêtements liturgiques sont vénérés depuis le Moyen-Âge. Restaurés en 1997, ils sont montrés ici pour la première fois au public dans le cadre du 20e anniversaire. Notamment cette ceinture que nous décrit Cécile Bénistan.
C'est une ceinture, vous voyez, qui est en cuir, hein, en cuir donc décoré hein, d'un chrisme, hein, avec donc de petites initiales, l'alpha et l'oméga, hein, le début et la fin. Hein. Et vous avez la boucle, alors qui est la plus intéressante, puisque c'est une boucle donc qui est en ivoire, finement donc décorée, qui représente, vous voyez, dans la partie centrale, eh bien, deux soldats hein, qui sont armés et qui sont assoupis près d'un tombeau, très probablement le tombeau du Christ, hein, ce qu'on appelle le Saint-Sépulcre, donc une représentation très certainement dans l'arrière-plan eh bien, de Jérusalem. C'est une ceinture qui est très belle, même trop belle pour Saint-Césaire, donc évêque d'Arles, qui était donc à l'origine un moine. Donc on pense que cette ceinture, c'était un cadeau que lui aurait fait donc le roi Ostrogoth, Théodoric, hein, qui était donc à Ravenne, et on sait pertinemment que Césaire va rendre visite justement à ce roi, et ce roi va lui faire cadeau de cette ceinture. Est-ce que Césaire va porter cette ceinture ? La question se pose, parce que Césaire était humble, pauvre, il donnait donc tous ses biens au clerc, il ne gardait finalement que très très peu de choses.
Deuxième étape incontournable sur la voie d'Arles menant à Compostelle, la ville de Saint-Gilles-du-Gard, qui fut au Moyen-Âge le troisième lieu saint en Europe après Rome et Saint-Jacques. Saint-Gilles abritait une abbaye très puissante, renommée dans toute l'Europe. C'était un port important le long du Petit Rhône, une cité florissante où se croisaient des marins venus de toute la Méditerranée, notamment italiens, et un temps aussi des croisés en route pour Jérusalem. Le maire de la ville, Eddy Valladier, puis la directrice du patrimoine de la ville, Vanessa Eckert, nous présente les travaux de restauration de l'abbatiale à deux étages et de son portail. Ici, au milieu des pelleteuses, des merveilles de l'art roman apparaissent au grand jour.
Bonjour monsieur le maire.
Bonjour Eddy Valladier, maire de Saint-Gilles. Dans le Gard, Saint-Gilles était au Moyen-Âge un haut lieu de pèlerinage. Et c'est pour cela que depuis désormais 2 ans, la ville de Saint-Gilles a engagé un grand projet de restauration de son abbaye. La fameuse vis de Saint-Gilles, dont l'achèvement des travaux s'est produit il y a quelques mois. Et aujourd'hui, nous sommes en train de restaurer, de terminer la restauration de la façade occidentale, qui est un joyau de l'art roman provençal et qui est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, justement au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle.
Et le coût de tous ces travaux ?
Oui, ce sont des travaux extrêmement lourds. Plus de 2,5 millions d'euros sont investis sur ce site abbatial, avec des concours financiers de nos partenaires, notamment l'État, la communauté d'agglomération de Nîmes Métropole, la région Languedoc-Roussillon, le conseil départemental nous ont soutenus parce que Saint-Gilles témoigne aussi du riche passé de cette région et notamment est un joyau de l'art roman.
Vanessa Eckert, directrice du patrimoine de la ville de Saint-Gilles.
Alors aujourd'hui, la façade de l'abbatiale de Saint-Gilles, on peut vraiment l'admirer avec un visage complètement nouveau. Depuis le printemps, l'échafaudage qui cachait la façade a été démonté et a permis de révéler au public la façade restaurée. Et donc ça a vraiment permis de révéler à nouveau les sculptures. Et justement, donc depuis la semaine dernière, on a un nouvel échafaudage qui est revenu sur le portail nord. Donc c'est celui qui est à gauche, qui est celui où est représente la nativité et l'entrée du Christ à Jérusalem. Pendant le chantier de restauration a été découverte de la polychromie, c'est-à-dire des peintures, des couleurs peintes sur la sculpture. Donc, restauration des polychromies, tout l'emmarchement devant l'abbatiale a été refait et comme on l'entend avec les travaux qu'il y a autour, il y a aussi toute la place de parvis de l'abbatiale qui est en cours de réfection, donc on est dans un vaste chantier. Voilà, c'est un ensemble d'étapes qui permettent vraiment d'apprécier le moment où on arrive devant l'église. Si nous nous trouvons ici dans la crypte, c'est pour justement se trouver devant le tombeau de Saint-Gilles, qui est un peu le point de départ de toute cette histoire. C'est une abbatiale dans l'état où on peut la voir aujourd'hui, c'est-à-dire son état de la fin du XIIe siècle, qui était vraiment conçue pour accueillir un grand nombre de personnes. Nous nous trouvons ici dans la crypte, devant le tombeau de Saint-Gilles. Alors, une crypte, c'est un lieu où on vénère des reliques. Alors Saint-Gilles était connu pour être celui qui protégeait contre la peur et qui protégeait les plus faibles. Alors notamment les enfants, les jeunes personnes, mais aussi les personnes les plus vulnérables comme les malades. Il y a d'ailleurs un livre qui s'appelle « Le livre des miracles de Saint-Gilles » et qui a un ensemble de récits passionnants qui racontent les histoires de pèlerins mais venus de partout, des quatre coins de la France, mais qui viennent aussi d'Allemagne, qui viennent du Danemark. Le culte de Saint-Gilles était très largement répandu. Pour vous donner un exemple, la cathédrale d'Édimbourg, elle est dédiée à Saint-Gilles. À la fois, Édimbourg est une grande ville importante, mais surtout, elle se trouve très très loin. Donc ça montre l'importance du culte. La cathédrale de Spire, une des grandes cathédrales allemandes, l'hôtel majeur, était dédiée à Saint-Gilles. Il y a de nombreux endroits. Il y a une commune de Bruxelles qui s'appelle la commune de Saint-Gilles. Il y a partout en Europe des mentions comme ça qui remontent au Moyen-Âge de lieux qui sont dédiés à Saint-Gilles. C'est pas anodin.
Direction Saint-Guilhem-le-Désert, un village perché à flanc de montagne qui respire le calme et la sérénité. Le pèlerin doit y passer pour voir les restes du grand Guilhem, comte de Toulouse et duc d'Aquitaine, chevalier de Charlemagne. Il doit surtout y honorer la relique de la vraie croix, conservée au sein de l'abbaye de Gélonne. Nous sommes donc dans l'abbatiale avec Philippe Machtel, le maire de Saint-Guilhem-le-Désert.
En fait, Saint-Guilhem, c'est Guilhem. C'est un grand guerrier franc, cousin de Charlemagne, qui est venu se retirer ici après toute une vie de conquêtes, de guerres, de batailles, de grandes et de petites victoires, etc. Donc il est venu ici fonder cette abbaye avec ses deniers propres et aussi avec l'autorisation, bien sûr, de Charlemagne. C'était en fait, la fondation des abbayes était essentiellement une manière de restructurer administrativement les territoires. Ce morceau de la croix du Christ, donc, a été donné, selon la légende de l'abbaye, a été donné par le patriarche de Jérusalem à Charlemagne, et qui lui-même l'a donné à Guilhem lorsque Guilhem est venu fonder l'abbaye de Gélonne. Donc cette relique de la croix, c'est un monument historique, bien sûr, elle est classée au monument historique. La relique de la croix, c'est le petit morceau de bois que vous voyez tout en haut, à la croix de la croix, si j'ose dire, voilà. Tout en haut, voilà, ce petit morceau de bois. Cette croix a été, depuis des siècles, et est toujours l'objet de dévotion et de pèlerinage.
Environ 40 personnes par jour viennent toujours ici de la visiter. Tout comme l'hôtel roman du Sauveur, dit l'hôtel de Saint-Guilhem, une merveille en marbre blanc dont la restauration vient de s'achever. Philippe Machtel.
Lorsque Guilhem est venu fonder l'abbaye de Gélonne, il a reçu aussi en cadeau, en plus de la vraie croix, il a reçu le sacramentaire de Gélonne, qui est un document du Moyen-Âge. Et dans ce sacramentaire de Gélonne, il y a une mention manuscrite qui précise que l'église abbatiale est dédiée au Sauveur. Voilà. Donc ce n'est pas l'église de Guilhem, c'est vraiment l'église du Sauveur. Le Sauveur, c'est le Christ que vous avez là en deux positions. Le Christ en croix sur la partie droite de l'autel et le Christ en majesté sur la partie gauche. Donc cet autel, c'est une pièce absolument unique. C'est un autel de marbre taillé, qu'il est incrusté de verres colorés qui ont été tous taillés
la dimension de petites infrastructures creusées dans le marbre. Donc c'est une pièce qui a dû demander mais des milliers d'heures de travail. C'est quelque chose d'absolument somptueux. Donc là, il était très malade. Il a passé 2-3 ans en rénovation, en restauration, et maintenant il est revenu et réinstallé.
Guilhem, c'est aussi l'histoire d'un grand guerrier qui, à force de persévérance, a réussi à devenir un saint. Un saint très prisé par les gens, au point qu'après sa mort, les clercs ont fait appel à son fantôme pour lutter contre le diable, qui s'opposait à la construction du pont qui devait relier Saint-Guilhem à Agnan, dans la vallée, enjambant les gorges de l'Hérault, dont les crues terribles s'engouffrent aujourd'hui encore dans l'arche centrale et les deux arches latérales. Une légende versée au patrimoine mondial de l'UNESCO que nous raconte Robert Latreille, président de l'association des Amis de Saint-Guilhem. Robert Latreille.
En 1128, les travaux ont commencé et les moines qui venaient les surveiller ont constaté que chaque soir, quelqu'un venait détruire le travail qui avait été fait pendant la journée. Et qu'ont-ils fait ? Ils ont rappelé de leurs abbayes Saint-Guilhem, leur patron, et Saint-Guilhem est venu. Il avait été canonisé en 1066. Non, bien sûr, il était mort depuis longtemps déjà, mais donc il est redescendu sur terre. Il est venu sur le pont une nuit, il s'est installé et il a attendu. Et il a vu arriver le diable. Il a interpellé le diable, il s'attend, lui a-t-il dit, « Mais qu'est-ce que tu fais? Regarde ce que tu fais. » Le diable lui a dit, « Mais bien sûr, je ne veux pas du tout voir tes chiens d'amis, de suivants, construire ce pont. » Ils ont discuté, puis finalement, Guilhem a proposé un compromis au diable en lui disant, « Écoute, si tu es d'accord, et le diable était d'accord, ce qui est extraordinaire. Tu nous laisses terminer et moi, je te livre la première âme qui passera sur le pont après sa construction. » Et le diable a dit, « Mais ce pont, je vais le construire, c'était l'autre partie de l'accord, d'une façon telle que rien ne pourra plus le détruire. » Quelques jours après, le pont était construit d'une manière extraordinairement solide et ils se sont retrouvés, le diable et Saint-Guilhem, pour le passage en question. Devant Saint-Guilhem est arrivé un chien, un animal. Et Guilhem lui a dit au diable, « Voilà. Voilà le meilleur chien de mes amis, comme je t'ai promis. » Et il l'a fait passer sur le pont. Le diable a compris qu'il avait été joué. Il est entré dans une colère terrible. Il est arrivé au milieu du pont, là-bas. Il s'est jeté par-dessus le parapet, jusqu'au fond, et où s'est creusé un siphon de 80 mètres de profondeur, qui existe toujours, et pour lesquels on incite les baigneurs actuels à ne pas aller, parce que c'est très dangereux. Voilà l'histoire du pont du diable. Alors, pour revenir un petit peu à la construction du pont, parce que c'est évidemment des hommes qui l'ont construit, il a peut-être un défi pour les constructeurs, oui, les ouvriers, les compagnons qui ont construit ce pont, oui. Voilà ce qu'on a fait au début du XIIe siècle.
Juste un mot sur les chemins de Compostelle, ça a permis un essor, économiquement parlant.
Oui, c'était intéressant, parce que sur le chemin de Saint-Jacques, les pèlerins passaient d'un monument à l'autre, c'est-à-dire d'une abbaye à une autre, ce qui explique que le chemin de Saint-Jacques, les chemins de Saint-Jacques, que ce soit la voie d'Arles ou les autres voies, sont tous ponctués par des monuments historiques qui sont classés au patrimoine mondial de l'humanité.
Béziers, Carcassonne, Toulouse, Roncevaux, la route est encore longue pour les pèlerins qui ont emprunté la voie d'Arles pour aller à Compostelle. Que cherche-t-il auprès de Saint-Jacques ? Adeline Recoy.
Saint-Jacques, on n'y va pas pour être guéri, comme on pourrait aller dans un sanctuaire comme Lourdes, par exemple, hein. Saint-Jacques, il guérit les âmes. Alors, ça fait très joli, hein. Les textes du Moyen-Âge, le Codex Calixtinus, fait une comparaison. Saint-Jacques était pêcheur sur le lac de Tibériade, et il pêchait des poissons, et il est devenu pêcheur d'âmes. Mais en fait, on s'aperçoit, en langage contemporain, que simplement le fait de suivre le chemin, de marcher sur le chemin, jour après jour, de s'éloigner petit à petit de la vie quotidienne, vous guérissez l'âme, pour parler dans des termes médiévaux, si vous voulez.